Le dernier amour, 12. Celle-ci n'était pas tout à fait aussi simple qu'elle le paraissait. Elle était femme à l'occasion. Et d'ailleurs, Tonino lui avait toujours donné à entendre ou à deviner que Félicie était encore sourdement éprise et jalouse de lui. Si elle ne craignait pas précisément cette rivalité, elle n'en souffrait pas moins. Honnête comme elle l'était, de voir son mari sous la dépendance d'une femme qui, à un moment donné, pouvait lui vendre honteusement ses bienfaits. Voilà en quelle abjection Félicie était tombée dans l'esprit peu développé, mais assez juste de son ex-servante. C'est là, précisément, que l'attendait le plus amer de ses châtiments, celui que je n'avais pas songé à lui infliger et dont se chargeait l'inexorable logique des faits. Comme elle interrogeait un peu vivement et d'un ton d'autorité la Vanina sur la manière dont s'était opéré le brusque départ de son mari, sur ce qui s'était passé entre lui et moi à ce moment-là, la jeune femme, à qui j'avais recommandé la discrétion durant quelques jours, refusa de s'expliquer et se mit en révolte ouverte. J'ignore ce qui se passa précisément entre elles et quelles terribles révélations furent échangées. Félicie se mit au lit en rentrant, et je dus appeler le médecin. C'était toujours ce même Morgagni qui l'avait soigné dès son enfance. « Ah !» me dit-il après l'avoir vue. « Elle a eu une grande émotion. »« Elle vous l'a dit ?»« Mais elle ne dit jamais rien, et je n'ai besoin de rien savoir quand j'ai tâté son pouls. »« Son mal est-il sérieux cette fois ?»« Cela vous regarde, consolez-la, et elle résistera au mal chronique qui la menace. »
« Vous parlez maintenant d'un mal chronique? Quel est-il ? »
« Il n'est pas déterminé, mais il est imminent, si l'exaspération générale continue. »
« Ainsi, mon ami, vous ne voyez rien à faire, et vous venez pour l'acquit de votre conscience ?»«
De ma conscience d'ami, car ma conscience de médecin n'a rien à voir dans tout ceci. Mais écoutez-moi avec calme. » Comme il convient à un époux dévoué et à un philosophe. On me dit que Tonino est parti. Faites qu'il ne revienne pas.
Pourquoi ? Expliquez-vous. Je suis aussi calme et aussi sage que vous pouvez le désirer.
Il faut que je m'explique. J'aurais cru que vous m'aideriez et que vous étiez pour quelque chose dans le départ du cousin.
Eh bien, n'importe. Sachez que Tonino est amoureux de Félicie, que cela trouble son ménage, et que Félicie est offensée de cet amour qui persiste en dépit de son indignation.
Vous êtes mal renseigné, docteur. Tonino n'est pas amoureux de Félicie, son ménage est heureux. Donc, Félicie n'a pas lieu d'être offensée.
Alors, prenez que je n'ai rien dit, administrez de légers fébrifuges avec prudence, et tâchez de ramener la gaieté. Moi, je croirais que les aveux délirants de votre femme n'ont aucun sens et ne portent sur aucune réalité. Je m'installai auprès de Félicie. Elle délirait, en effet, et je ne devais permettre à personne de surprendre ses paroles. Elle était surtout dévorée de colère contre Tonino et Vanina. Il n'y avait ni regret, ni amour, ni crainte, ni remords dans ses plaintes. Elle n'était malade en ce moment-là que de honte et de dépit. Dans la nuit, elle s'apaisa et me reconnut. Elle me demanda avec effroi si elle avait parlé dans son sommeil. Je lui dis que non. Elle dormit plus tranquille. Peu de jours après, elle fut rétablie. Mais ce n'était qu'une guérison relative. La fièvre persistait, peu déterminée, mais incessante. Morgagni m'assura que c'était l'état normal d'un pouls exceptionnel. Plus attentif que lui, je constatai une aggravation. et dès lors je résolus de guérir le moral autant que possible. L'expiation était suffisante, elle était même trop grave si elle mettait la vie en danger. La répression était complète et absolue. Je ne comptais pas contraindre Félicie à payer toute sa vie les amers plaisirs d'un an d'adultère. Tonino avait très bien compris mon attitude méprisante. Il était trop craintif pour tenter rien de nouveau contre moi. Ma misérable femme était donc délivrée de lui. Le fait humiliant de donner de l'argent pour cela était pour elle une leçon assez cruelle et assez amère. Mon devoir était désormais de tenter la réhabilitation de cette âme brisée. Il fallait la mettre à même de sentir, sans trop de blessures, l'aiguillon du repentir et de lui ouvrir l'horizon d'un avenir plus digne d'elle. Mon ressentiment était apaisé, ma dignité satisfaite. J'étais tout entier à la compassion. J'appartenais à la loi de patience. Et d'abord, je me demandais si, la crise passée, il serait utile à cette conversion de montrer le rôle que j'y jouais. Je reconnus bien vite que c'eût été renouveler l'expiation. Félicie avait eu, en me croyant informée de sa faute, des douleurs d'épouvante telles qu'elle fût, je crois, tombée morte si je ne l'eusse dissuadée. Ce qu'il y avait de plus horrible à envisager pour cet esprit où l'orgueil combattait la luxure, c'était d'encourir mon mépris. C'était là un si grand désastre pour elle qu'elle n'y eût pas survécu. Je crois qu'elle ne pouvait pas se représenter l'horreur d'une telle situation, puisqu'elle se laissait si facilement persuader que j'étais sa dupe. Il importait donc de conserver ce rôle sans m'enlacer, quelque irritant et humiliant qu'il pût être. Demander une confession n'eût pas été seulement tyrannique, cela eût été puéril. Pour se confesser avec sincérité, il faut être repentant. Félicie n'en était qu'à l'humiliation intérieure. Pour l'amener à l'attendrissement, il eût fallu m'attendrir moi-même. Cela, je ne le pouvais pas sans me dégrader. Montrer mon cœur brisé à cette femme brisée par un autre, c'était une lâcheté impossible. Elle éprouvait pourtant le besoin de me confier une partie de ses peines, et si je l'eusse permis, elle m'eût désormais parlé de Tonino à toute heure, aimant mieux en dire du mal que de n'en point parler. Mais je jugeais que ce soulagement était pire que le silence. Je le lui interdis en lui répétant d'un ton sévère et froid qu'il ne fallait pas juger Tonino sur un passé qu'elle avait fait elle-même, mais qu'il fallait voir comment il gouvernerait l'avenir en se voyant seul responsable de sa propre existence et de celle de sa famille. Elle prit d'abord de l'humeur et m'accusa de faiblesse. Elle railla mon optimisme. Je la laissai dire sans répliquer. Elle se tut, elle n'osa plus y revenir. Vanina demanda bientôt à me voir. Elle était pressée de partir. Irritée contre Félicie, elle ne s'expliquait pas, mais, sans l'interroger, je vis bien que tout était à jamais rompu entre elles. Vanina savait maintenant que cette fortune annoncée par moi à son mari n'était autre chose qu'un don imposé par moi à Félicie, don considérable eu égard à sa petite fortune territoriale. Vanina souffrait de voir Tonino accepter ce bienfait, que sans doute Félicie lui avait reproché en le lui révélant. Elle voulait partir avec ses deux enfants et une servante, rejoindre Tonino avant qu'il se fût établi, l'empêcher de profiter de ma générosité, le forcer à être pauvre au besoin, à travailler avec courage, sans rien devoir à personne. « Il y a bien assez ici, disait-elle, pour nous acquitter envers votre femme. Qu'elle reprenne tout ce qu'elle nous a donné. Moi, je ne veux plus rien lui devoir. Je suis forte et je suis fière. Je ne crains pas ma peine et je ne suis pas inquiète de mon mari. Il a trop d'esprit pour ne pas faire fortune sans le secours des autres. » Je cherchais à lui faire entendre qu'elle n'avait pas le droit de refuser ce que, de bonne grâce ou non, ma femme donnait à son mari et par conséquent à ses enfants. D'ailleurs, avant de faire un éclat que Tonino pouvait blâmer et rendre inutile, il fallait le consulter. Elle me promit de prendre patience jusqu'au terme fixé pour mon départ avec elle. Mais elle ne put tenir parole. J'appris le surlendemain qu'elle était partie, avec ses enfants et deux de ses serviteurs, pour la Vénétie, où Tonino était déjà rendu, mais non établi encore. En apprenant cette nouvelle, Félicie redevint généreuse. Elle s'inquiéta des enfants, de la fatigue du voyage pour cette jeune mère qui nourrissait, du peu d'argent qu'elle pouvait avoir. Elle voulait courir après eux, non pas demander pardon à la Vanina, mais la forcer à l'admirer et à l'aimer encore. Elle faisait des paquets de vêtements, elle s'agitait. Sa fièvre augmentant, je dus encore la calmer, en lui remontrant que la Vanina était forte et résolue, que les enfants étaient robustes, les serviteurs dévoués, et que Tonino leur avait laissé plus d'argent qu'il n'était nécessaire pour un voyage de 100 lieues. Elle s'apaisa. Mais bientôt elle me pressa de partir pour tenir ma promesse à Tonino. Elle avait, avec une résolution extrême, réalisé très vite la somme d'argent que je devais porter à son prétendu fils adoptif. Je m'aperçus alors qu'elle se préparait elle-même au voyage, comptant qu'au dernier moment elle me déciderait à l'emmener. Je fis échouer cette combinaison désespérée, dernier effort d'une irrésistible passion. Je lui déclarai que je ne m'intéressais pas assez à Tonino pour aller lui rendre visite. L'empressement de Vanina à partir sans moi et à mon insu avait fait échouer la sollicitude que j'avais promis d'avoir pour elle et pour mon filleul. Dégagée de ma promesse en ce qui la concernait, je ne me sentais nullement obligée de porter moi-même à Tonino un don qu'il était beaucoup plus sûr et plus facile de lui faire tenir par un banquier. La chose fut faite comme je la décidais. Tonino reçut le salaire de sa bassesse et il fut content. Sa femme m'écrivit pour m'annoncer son heureuse arrivée à Venise, son départ pour les terres que Tonino allait affermer, et me dire la reconnaissance qu'elle éprouvait pour moi. Elle n'avait pas réalisé ses projets de fierté, son mari avait dû lui faire renoncer, mais elle se vengeait en s'abstenant de nommer Félicie. Je refusai de montrer cette lettre à ma femme. Elle la chercha en vain sur mon bureau. Je l'avais brûlée. Félicie dut se contenter de savoir que l'on était satisfait là-bas. Ce fut un coup de poignard, le dernier. Elle se résigna. Nous entrâmes alors dans une nouvelle phase d'existence conjugale. La première, jusqu'à la chute de l'épouse, avait été belle et pure. La seconde, l'heure odieux pour moi, avait été pour elle un avilissement suivi d'expiation. La troisième, celle de la réhabilitation, commençait pour elle. Qu'allait être pour moi cette entreprise terrible? Je ne m'étais pas encore demandé si j'aimais toujours ma femme et à quel point je souffrais de sa trahison. Je n'avais pas voulu m'occuper de moi-même, sentant bien que, le jour où je me laisserais aller à la douleur, je n'aurai plus la force nécessaire pour accomplir mon devoir. Sans doute, il est des âmes assez fortes pour porter à la fois le sentiment du devoir et celui de la douleur. Moi, je n'étais pas un stoïque proprement dit, ne l'oubliez pas. J'ai toujours été tendre. Quand j'ai du courage, et j'en ai quelquefois, c'est à la condition de m'abstraire de ma personnalité, de me considérer comme une machine obéissante, agissant sous l'empire d'une volonté supérieure à moi. C'est ma manière d'être religieux, chacun à la sienne, résultant des ressources que lui offre son organisation. Je peux donc m'anéantir en quelque sorte jusqu'à un certain point, me rayer de mes propres comptes, ou du moins me compter pour un zéro, n'ayant de valeur que par rapport aux chiffres qui doivent régler la conduite et la destinée. Je peux, à un moment donné, quand je plie sous une vive souffrance, sous une extrême fatigue ou sous un suprême chagrin, prononcer sur moi cet arrêt temporaire, il est vrai, mais énergique et utile. peu importe. C'est comme une suspension de sensibilité que je peux m'imposer à moi-même dans les très grandes crises, non dans les petites. Il y a de cela chez tous les hommes. On sait moins réagir contre une contrariété que contre un désastre. Ceux qui se sont un peu observés en se sentant vivre savent que leurs faiblesses trouveront l'occasion d'être rachetées par quelque inspiration de grandeur, et il leur serait difficile de croire qu'un principe divin de force, de sagesse et de bonté ne plane pas au-dessus d'eux pour rendre leur tâche possible, leur bon vouloir profitable. J'avais donc traversé et supporté l'épreuve horrible des premiers jours sans égarement et sans faute. Pendant près de 2 mois, tout entier à l'action, je m'étais interdit et préservé de trop souffrir. Je ne m'étais pas écrié une seule fois en levant les bras contre le ciel « Suis-je assez malheureux ?» Le moment de la réaction où l'esprit se détend, où il faut bien le laisser se détendre sous peine de le voir se briser, approchait inévitablement. Félicie provoqua elle-même la crise amère. Sa santé se rétablissait à vue d'œil. Il semblait que ma fermeté tranquille l'eût délivrée du démon qui l'avait possédée. Elle ne feignait plus d'oublier Tonino, elle l'oubliait réellement. J'étudiais les soubresauts de souffrance que lui causait son nom quand on le prononçait devant elle, le calme, l'espèce de bien-être moral et physique où elle se plongeait, quand des journées entières se passaient sans qu'elle fût forcée de se rappeler son existence. Je mettais tous mes soins à prolonger ces jours d'oubli nécessaires à sa guérison intellectuelle. Le fantôme s'évanouit très vite, et le repentir commença. Je m'en aperçus au redoublement de soins et de soumission dont je fus l'objet. Félicie avait été dissimulée avec audace et résolution, mais elle n'avait pas été réellement hypocrite. Plus clairvoyant, j'eusse deviné alors aux 1000 excuses assez plausibles, mais un peu monotones qu'elle m'avait données de ses fréquentes préoccupations, une gêne secrète et des invraisemblances dans nos rapports intimes. Dans ce temps-là, elle n'avait pas simulé l'amour avec moi, elle en avait ajourné l'expression, comme si, ayant toute la vie pour m'aimer, elle eût voulu ménager la fraîcheur de sa tendresse. Délicat comme ceux qui aiment véritablement, je n'avais pas voulu l'interroger sur sa réserve. J'avais attendu le retour de l'effusion, me disant que le provoquer, c'était risquer de l'imposer, et qu'il ne faut jamais condamner la femme à manifester l'enthousiasme qu'elle n'éprouve pas. Quand elle se sentit libre de revenir à moi, elle s'étonna de me trouver à mon tour inintelligent et préoccupé. Elle épia mon assiduité au travail, mon ardeur à la promenade, l'accablement d'un sommeil chèrement acheté par des semaines de réflexion et d'insomnie. Et un jour, elle s'écria en pleurant « Vous ne m'aimez plus !»« Je vous aime plus que jamais !» lui répondis-je en prenant dans mes mains sa tête brûlante qu'elle cachait dans ma poitrine. Mais quand mes lèvres s'approchèrent de son front pour le purifier par le pardon de l'amour, une force invincible roidit mes bras. Je tins cette pauvre tête dégradée à distance de la mienne, sans qu'il me fût possible de les rapprocher l'une de l'autre. Et cette force contre laquelle je luttais en vain fut si convulsive que Félicie, effrayée, s'écria « Oh, que vous me faites de mal! Vous voulez donc me tuer ?» Je la lâchai et je m'enfuis. Que s'était-il passé en moi? Je ne pouvais m'en rendre compte. Le ciel m'est témoin qu'en disant à cette femme « Je vous aime plus que jamais », je croyais lui dire la vérité. J'avais eu une si fervente résolution de lui pardonner que je ne doutais pas de moi-même. J'étais paternelle, j'étais évangélique dans ce moment-là. Je croyais recevoir dans mon sein l'enfant prodigue, rapporter au bercail sur mon épaule la brebis égarée. Mais, en surprenant, au lieu d'un rayon de reconnaissance, un éclair de volupté dans ses yeux d'azur, je ne sais quelle secrète horreur s'était emparée de moi. comme si j'allais, en partageant un désir sacrilège, souiller la plus noble victoire de l'âme, le pardon de la charité. C'est alors que je compris enfin ce qui s'était brisé en moi. Je m'étais cru ravivé et renouvelé par les efforts de ma volonté. Je croyais pouvoir sauver cette âme sur laquelle j'avais juré de veiller et d'étendre la protection infatigable de l'amour. L'amour m'échappait. Le dégoût s'emparait de moi à la pensée d'unir mes lèvres à ses lèvres souillées, de confondre dans un baiser l'âme d'un homme sans reproche et celle d'une femme avilie. Qui, d'elle ou de moi, était devenu un cadavre? L'abîme du tombeau s'était ouvert entre nous. À la pensée de le franchir, tout mon être se révoltait. Ah, c'est bien elle qui était morte! En simulant la vie, le spectre devenait effrayant. C'était l'ombre de mon passé qui se levait devant moi pour me dire « Unissons-nous dans la mort !» Mais la mort est sacrée. Elle est le lit nuptial des âmes qui se sont chéries saintement. Elle n'est pas la couche ardente des amants enivrés. Point d'arrivée et point de départ pour les étapes de la vie éternelle. Elle s'exprime par le majestueux abandon de la personnalité apparente. Elle a ses lois à part, aussi mystérieuses que celles de Dieu même. Et si cette loi est l'amour encore, c'est avec des manifestations que les hommes ne connaissent pas. Qu'y avait-il de commun désormais entre la chair de l'amante de Tonino et la mienne? Ce lien était rompu. Comment avais-je pu me flatter de le renouer? Toutes les eaux du léthé, toutes les eaux du ciel même, ne pouvaient laver la souillure de cette chair profanée. Était-ce un préjugé? Je me posais sincèrement la question. Je m'élevais aux plus hautes institutions de l'idéal. Je vis la figure de Jésus traçant ces mots sublimes. Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Je ne la vis pas conduisant au lit de l'époux outragé, la femme adultère. Oubli et pardon, oui, dans le sens de la charité. Mais dans celui de l'hyménée, non, cela est impossible à la nature humaine. À moins d'une grossièreté d'appétit dont l'homme civilisé rougit s'il y succombe. Je m'efforçais de rêver l'état de sainteté absolue, l'oubli entier, complet, formel de l'égoïsme et du sentiment de la propriété. Ma femme m'aimait encore, je le voyais bien. Elle m'avait toujours aimé. Elle avait été fascinée, envahie, égarée. Elle n'attendait pour redevenir pure que le retour de ma tendresse sans borne. C'était le signe de ma confiance en elle, qui seule pouvait lui rendre la confiance en elle-même. C'était l'acte de foi, par lequel notre union devait être renouvelée et à jamais dégagée de l'entrave du mal. « Pourquoi ne serais-je pas un saint ? » me disais-je. « N'ai-je pas fait le plus difficile ? N'ai-je pas terrassé la colère et bu la douleur ? N'ai-je pas traversé le désespoir et vaincu l'orgueil ? J'ai agi en philosophe, en ami, en homme religieux, en homme du monde. Je ne me suis pas cru délié de mes serments. J'ai été le père spirituel de cette âme enfant, de cette organisation sauvage dont je n'avais pas prévu, mais dont j'ai subi les écarts et les déchaînements. J'ai épuisé ce calice jusqu'à la dernière goutte. Et au moment de recueillir le fruit de ma sagesse et de ma bonté, voilà que la haine remonte, et qu'au lieu de donner le baiser de paix, mes lèvres frémissent d'horreur et d'épouvante. Est-ce que je redeviens l'homme irréfléchi, vulgaire, instinctif, que j'ai résolu de ne pas être? Je retournai auprès de Félicie pour la rassurer au moins sur la bizarrerie de mes manières. Si je lui laissais deviner ce qui se passait en moi, elle était perdue. Elle mourait de douleur et de honte, où elle faisait pis. Elle se rejetait, éperdue dans le rêve de son impure passion. Il fallait lui ôter ce doute, lui paraître aussi naïf, aussi aveugle que l'idiot dont je jouais le rôle avec héroïsme. J'y réussis, en montrant un enjouement qui me déchirait le cœur. Je la fis sourire. Il y avait une légère nuance de mépris dans ce sourire à demi triste, à demi perfide. La femme n'admire plus l'homme qu'elle ne craint pas un peu. Je vis poindre ce dédain, et je le supportais. Et il s'effaça pourtant. Félicie était trop passionnée pour se guérir d'un amour sans se rejeter dans un autre. Elle pouvait oublier Tonino, avec l'espérance de retrouver en elle l'enthousiasme qu'elle avait eu pour moi. Elle était prête à subir cet enthousiasme. Il fallait le faire renaître. Mais pour cela, il fallait l'éprouver. Je ne parle pas ici à mots couverts dans l'intention prude et libertine de faire deviner plus que je ne veux ou peux dire. Le mariage dévoilé a son impudeur pour ceux qui n'y voient qu'une série de plaisirs faciles, sans y faire entrer l'amour vrai, le grand amour. Cette manière de l'envisager n'était pas la mienne. Je n'avais épousé Félicie ni par convenance, ni par amitié, ni par galanterie. Je l'avais aimée d'amour, c'est-à-dire avec tout mon être. Idées, affections, sympathie physique, tout ce qui était moi lui avait appartenu. Nous n'étions pas assez jeunes l'un et l'autre pour ne pas prévoir que les sens s'éteindraient avant l'estime et la tendresse réciproques. L'amour vit encore par le souvenir des joies pures, et c'est la foi au passé qui le rend impérissable. Mais ôtez la foi et l'estime. La tendresse ne peut plus se manifester saintement par le plaisir. Pour reprendre comme maîtresse agréable l'épouse souillée, il faut abjurer l'amour et rire de soi-même. Je ne pouvais pas être si bon plaisant que cela. J'avais trop sincèrement aimé. Il eût donc fallu pouvoir oublier. Elle le pouvait, elle le voulait. Elle se haïssait peut-être elle-même, mais elle croyait pouvoir tout réparer. Et moi qui ne l'avais pas haï, moi qui croyais aussi à la réhabilitation toujours possible, je ne pouvais chasser l'image de l'adultère, interposée entre nos deux images et les empêchant de se confondre. Alors commença une lutte funeste. La malheureuse voulut reprendre son empire. Elle crut que, rassasiée de bonheur tranquille, j'entrais dans la phase de paresse intellectuelle où l'on n'a plus soif d'idéal et où l'on retombe dans les habitudes de caractère que l'on avait avant de rêver le bien suprême. Elle fut plus habile et plus patiente que je ne l'en eusse cru capable. Elle feignit de respecter les études, où je feignais, moi, de m'absorber, pour lui cacher mes angoisses. Elle se fit craintive, émue, coquette de modestie et de chasteté, comme au jour où je me défendais de partager son amour. C'est par l'humilité qu'elle m'avait vaincue. Elle crut me vaincre encore en ne m'adressant ni plainte ni reproche, et en essuyant à la dérobée les larmes que lui arrachait mon apparente préoccupation. Je fus émue peu à peu de cette douceur, et je saluai en moi l'émotion comme la bonne nouvelle. C'est peut-être la grâce qui descend sur moi, me disais-je. Peut-être vais-je oublier le passé. Peut-être, un matin ou un soir, quelque rayon luira sur ma triste nuit de désespérance. Je reverrai cette figure chérie que je ne peux plus me représenter. Elle aura retrouvé son nimbe, son profil pur, la virginité de son attitude. Madame Sylvestre aura disparu à jamais. Félicie Morgeron, la fille biblique, élégante et pudique, avec sa cruche sur la tête, reviendra de la fontaine en me disant « Bois !» Et je ne saurai plus que sa main m'a versé le poison du mensonge. Ah ! La revoir ainsi, ne fût-ce qu'un instant, j'aurais donné pour cela le reste de ma vie. Il y avait des jours où j'étais tentée de me fouiller le cœur avec mon canif pour en extirper le souvenir, ce ver rongeur qui m'empêchait d'espérer. Il arriva, ce jour fatal que je demandais si naïvement à la destinée. Félicie était allée à l'église, non pour prier, elle ne croyait réellement à rien au-delà de la vie, mais pour rêver ou se recueillir, peut-être pour essayer de croire. J'écrivais quand elle entra, parée, animée, vraiment belle et rajeunie. Je la regardais. Elle s'agenouilla et me dit « Vous souvenez-vous d'un air que j'improvisais par hasard il y a 3 ans et qui vous parut, vous me l'avez dit plus tard, révéler, proclamer et imposer l'amour. Je l'avais oublié, je n'ai jamais pu le retrouver. Il vient de me revenir à l'église. Voulez-vous l'entendre ?»«
Non, » lui dis-je vivement, sans trop savoir ce que je disais.
Je me repentis de ma réponse. Si elle n'en pénétra pas le sens, elle le pressentit à sa manière.
« Vous n'aimez plus rien du passé, » me dit-elle, abattue et comme brisée.
« C'est ma faute, je vous le laisse trop oublier. »
Je n'oubliais rien. Je craignais de retrouver mes souvenirs enlaidis et dénaturés. Mais voyant que je l'avais affligée, je la priai de réveiller la voix endormie du précieux violon. Elle s'y refusa, disant que j'y mettais de la complaisance et qu'elle se contenterait de fredonner l'air à demi-voix pour me le rappeler. Alors elle chanta tout bas, presque dans mon oreille, et bien qu'elle n'eût pas de voix et chantât rarement, elle mit tant de charme et d'émotion dans son accent voilé qu'une larme vint au bord de ma paupière au souvenir de cet air qui m'avait pour ainsi dire ouvert le cœur et l'esprit à l'amour la première fois qu'elle me l'avait fait entendre. Je me rappelais les circonstances où cette magie s'était emparée de moi. Je revis le paysage où j'étais. La mâle et douce figure de Jean m'apparut et me sourit. Un souffle printanier glissa dans ma chevelure et je me sentis tout jeune, comme à l'instant où cette vibration magnétique du violon de Tonino Monti avait embrasé l'air que je respirais. Je crus au miracle, comme un homme qui a déjà senti la transformation miraculeuse et qui n'en croit pas le retour impossible. Félicie s'était remise à genoux près de moi en chantant. J'oubliai le spectre. J'étreignis la femme. Je crus étreindre l'amour. Mais ce n'était que le rêve. L'amour physique qui fait sentir plus odieusement l'absence de l'amour moral. Le réveil fut affreux, car l'ivresse trompeuse m'arracha des sanglots, et Félicie comprit enfin que je savais tout. Elle feignit de croire à une excitation nerveuse et me laissa seule sans m'interroger. Moi, j'étais trop troublée pour m'apercevoir de sa découverte. J'étais certain de n'avoir pas laissé échapper un mot qui trahit mon désespoir. J'étais brisée, mais je n'avais pas été lâche. Je n'avais pas insulté la femme qui me brisait. « Qui sait, me disais-je, si cette révolte de ma conscience ne sera pas la dernière ? L'amour a le don du miracle. Ne peut-il faire taire l'esprit ?» Mais, alors, je me représentais Félicie savourant dans les bras de son amant l'ivresse qu'elle venait de goûter dans les miens, et, se disant ce que je ne pouvais jamais me dire, « Le plaisir est tout l'amour, il est plus fort que tout, la conscience n'est rien devant lui. » Elle avait vécu de ce blasphème, et elle allait en vivre encore, puisqu'elle trahissait le souvenir de l'amant sans aucun trouble, pour demander à l'époux l'enivrement de même nature, sauf à comparer après quel vin était le plus capiteux et provoquait le mieux l'athéisme du cœur, dernière ressource d'une mauvaise conscience et d'un instinct perverti. J'eus beau m'efforcer de l'excuser, je sentis qu'elle me devenait, non pas odieuse, car la haine est un amour encore, mais étrangère sous un certain aspect. Cette femme n'était plus mienne par la chair. Sa beauté ne me parlait plus. J'eus eu le droit de lui chercher un autre époux que je l'eusse cherché avec sollicitude et bonté, comme on le cherche pour une parente, pour une fille, sans concevoir une jalousie possible. L'amour qu'elle venait d'obtenir de moi me parut un égarement bestial dont je fus honteux, irrité contre moi-même. Si j'eusse été dominé par des instincts violents et impétueux, il devenait évident pour moi que je l'eusse étranglé après la crise. C'était donc à un paroxysme de férocité. C'était donc au meurtre que me conduisait la tentative du pardon complet. Le meurtre révoltait tout mon être, à ce point que je me sentis défaillir.
Mais tout aussitôt, une réaction terrible me fit tourner ma rage contre moi-même. Je déchirai ma poitrine avec mes ongles. J'avais besoin de haïr et de torturer quelqu'un. Je me détestais et je me prenais moi-même pour victime. Quand je me vis couvert de mon propre sang, j'éprouvai un soulagement étrange, comme celui d'une bête de proie satisfaite et repue. Ce fut une grande révélation pour moi. L'homme le plus doux et le plus civilisé peut avoir des moments de fureur féline où il ne s'appartient plus et où il est capable d'agir sans conscience de ses actions. En voyant le mal physique que je venais de me faire sans le sentir, j'eus peur de moi, comme d'un ennemi plus fort que moi. J'étais donc capable, à un moment donné, de subir cette démence et de l'exercer sur un autre? Sur quel autre tomberait-elle, si ce n'est sur la malheureuse qui provoquait les appétits du tigre? Je songeais à fuir. C'était le plus lâche des palliatifs. Je m'interrogeais sévèrement. Ma loyauté intérieure me répondit « Aucun danger, aucune colère, aucune vengeance possible pour celui qui n'impose pas silence à une conscience éclairée et timorée comme la tienne. Mais malheur à toi si tu veux boire l'eau de feu qui a enivré ta femme. Ce breuvage-là ne peut pas s'assimiler à un tempérament sain et fort comme le tien. Les gens bien trempés ne supportent pas les excitations factices. Tu as voulu vaincre la nature en toi-même. La nature qui ne s'est pas laissée fausser par le mal est une sainteté et une logique. Elle répugne au sophisme. Elle rejette les aliments empoisonnés. Quand même ils sont cachés sous l'huile et le miel. Tu t'es trompé par excès de bon vouloir. Tu as voulu être plus doux que Dieu même, qui, selon toi, ne châtie point. En cela, tu n'as pas compris la profondeur et la beauté des lois qu'il a instituées et qu'il ne transgresse jamais. Ces lois attachent la punition immédiate au mal que l'homme se fait à lui-même. Tu t'es déchiré la poitrine, tu saignes. Tu as voulu boire la sainte volupté dans un vase souillé. La douleur s'est emparée de toi. Tu as cru que la pitié pouvait ramener l'amour. La haine s'est déclarée. Ouvre les yeux et humilie-toi, disciple trop naïf et trop ambitieux de l'idéal. L'idéal n'est une vérité qu'à la condition de rester dans la voie de la nature. L'amour dans l'homme est un idéal aussi. Il est l'aspiration à l'assimilation de deux êtres différents dans un acte de foi commune. Réduit au plaisir des sens, il n'est plus l'amour. Il est l'appétit qui engendre l'oubli, la lassitude et même l'aversion s'il y a abus. Car la nature est sage et logique dans ses fonctions matérielles, aussi bien que dans ses fonctions intellectuelles. Ne jouez pas avec l'amour. Est un grand mot dont le sens va bien au-delà de ce qu'il semble indiquer. Il ne menace pas seulement de brûler celui qui en approche sans défiance. Il condamne à être dévoré celui qui s'y jette sans savoir qu'il faut la foi pour affronter le feu sacré. Appétit bestial, il énerve. Enthousiasme aveugle, il égare. Amitié sans discernement, il écœure. Il veut être à la fois plaisir, vénération et tendresse pour vivifier et retremper les âmes et les corps. Mais il ne renaît pas de ses cendres. Qui l'a laissé éteindre ne peut pas le ranimer. Si tu lisais dans le cœur de ta femme adultère, tu verrais qu'elle n'aime plus ni le mari ni l'amant et que ses efforts pour s'aimer elle-même seront impuissants désormais. Elle ne peut plus connaître l'amour. Il ne se présentera plus à elle qu'à travers la souffrance du désir ou l'effroi du châtiment. Ses yeux, en plongeant dans les tiens, y cherchent en vain la volupté. Ils y liront toujours la sentence de mort, le mépris qu'elle mérite et que tu ne peux pas lui épargner. Cette femme est punie par toi, malgré toi. C'est la loi, et tu es forcé de la subir aussi bien qu'elle. Tu avais deviné cela dès le premier jour, en décrétant que tu ne la punirais pas. Tu sentais bien qu'elle était déjà punie. Tu as fait ton devoir. Pourquoi veux-tu le dépasser, l'annuler par conséquent? Pourquoi veux-tu transformer le pardon en récompense et vaincre en toi le dégoût, cette chose vraie et forte qui vient, comme le désir légitime, des hautes régions de l'équité naturelle. Va, le détachement n'est pas une simple lassitude physique qu'un peu de volonté surmonte. C'est le profond repos qu'exige l'être après les luttes suprêmes. Ce n'est pas un épuisement de la charité. C'est celui de la vaine sensibilité qu'une certaine paresse entretient en nous. C'est une protestation que notre dignité nous impose sous peine de nous abandonner. Je me rendis à cette voix qui parlait en moi, et de moi à moi-même. C'était le vrai moi humain, complet et sûr de lui, qui réclamait son droit à la vie normale. « Oh non, non, pensais-je, ce n'est pas un préjugé, ce n'est pas une tyrannie que de vouloir être aimé exclusivement quand on a vraiment aimé ainsi soi-même, et que rien n'a excusé ni seulement motivé la trahison. On a avili mon amour, on l'a condamné au partage. » Car Félicie avait menti à son amant. Elle était revenue à moi plus d'une fois durant ses amours avec lui, et on m'avait conduit, les yeux fermés, dans un temple d'impureté où j'avais cru embrasser l'autel de la chasteté conjugale. Devais-je pardonner cela? Non, puisque je ne devais pas l'oublier. Et puisque je ne le pouvais pas, malgré des efforts de dévouement où ma raison avait failli se briser, c'est que la nature ne le voulait pas. Dieu ne pouvait pas faire le miracle que je lui avais demandé. Dieu ne fait pas de choses insensées.